Herodot.net, Richard Fremder.
Nous sommes le lundi 21 janvier 1911. Il est 7h30 au musée du Louvre quand deux débalayeurs qui font leur travail s'arrêtent un instant et regardent Mona Lisa. À 9h, le peintre Louis Bérou pénètre à son tour dans le musée et se dirige directement vers la Joconde. C'est un habitué. Quand il arrive, elle n'est pas là. Pas de panique. À l'époque, on change souvent les œuvres de place. Il va vers le premier gardien venu et lui dit « Pardon, monsieur, excusez-moi, où se trouve la Joconde, s'il vous plaît ?»« La Joconde, » dit le gardien étonné, « mais elle est à sa place, entre l'allégorie de Titien et la Sainte Catherine, ne corrige. » Et non, elle n'y est pas. Alors là, branle-bas de combat, on ferme le musée, on essaye de fermer au maximum les portes de Paris, on interroge tout le monde. Parmi les premières personnes à être interrogées, il y a un certain Maurice Leblanc, vous savez, le père d'Arsène Lupin, qui dans son roman « L'aiguille creuse » a écrit quasiment mot pour mot ce qui est en train de se passer, à savoir « on a volé la Joconde ». Il faudra 2 ans pour récupérer ce tableau magnifique. Pourquoi 2 ans ? Parce qu'en 1913, un antiquaire italien a eu l'idée de créer une exposition sur la Renaissance. Et à grand renfort de réclames, comme on dit à l'époque, il demande à tout un chacun de lui envoyer un maximum d'œuvres de cette époque. Et parmi les lettres qu'il reçoit, il reçoit un courrier disant « Voilà, monsieur, j'ai à vous vendre la Joconde ». Il ne sait pas si ce n'est pas un canular. Avec la police, il se rend au rendez-vous. Effectivement, c'est bien la Joconde, le personnage est arrêté. Il s'agit d'un certain Vincenzo Perugi qui souhaitait rendre la Joconde à l'Italie. Il pensait que les Italiens en avaient été spoliés. C'est un ancien miroitier qui travaillait au Louvre. Il lui a fallu moins de 2 heures pour voler la Joconde. Alors pourquoi je commence par cet événement pour parler de Léonard de Vinci? Eh bien parce que, premièrement, je crois que tout Léonard de Vinci se trouve dans la Joconde, je dirais même, et j'utilise le mot sciemment, toute la technologie de Léonard se trouve dans ce tableau. La deuxième raison, c'est parce que quand on voit tous les mois qui a eu cours à propos du vol de la Joconde, on a parlé toutes les semaines, tous les mois, pendant des mois et des mois dans les journaux, on se dit que Léonard a dû être véritablement adulé, adoré de son vivant. Et là, je suis obligé de rectifier l'erreur. Non, Léonard n'a pas été adulé, n'a pas été adoré de son vivant. Et c'est cette histoire que nous allons vivre ensemble. Nous allons remonter 5 siècles en arrière pour arriver dans un petit village de Toscane, à Vinci, près de Florence. Nous sommes le 15 avril 1452 et ensemble, nous allons décrypter Léonard de Vinci. Alors cette date est très importante, 15 avril 1452, parce que 1452, je le répète encore, nous sommes en plein Moyen-Âge. Même si il faut voir que officiellement, pour nous contemporains, 1452, c'est un an avant la fin officielle du Moyen-Âge, vous savez, la chute de Constantinople. Mais à l'époque, concrètement, dans les campagnes, on est loin de tout cela. Le véritable changement dans les mentalités de l'époque, dans les mentalités médiévales, le vrai changement, il est dans la découverte de l'Amérique. Il est dans la fin de la reconquête espagnole, l'Espagne qui en 1452 est encore pour une bonne partie aux mains des musulmans. Donc on est toujours dans ce monde médiéval qui pense encore Moyen-Âge. Et c'est le premier travail que je vais vous demander déjà, de penser Moyen-Âge et ne pas penser Renaissance, parce qu'on nous dit toujours, et c'est le premier des mythes que je vais faire tomber, en tout cas c'est la première idée reçue que je vais faire tomber, Léonard de Vinci, qu'on nous présente toujours comme un humaniste de la Renaissance, n'est pas un homme de la Renaissance. Léonard de Vinci est un homme médiéval, né au Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, qui se retrouve exilé à la Renaissance, entre guillemets, par hasard. Et vous allez comprendre, je vais essayer d'ailleurs de vous démontrer que Léonard n'est pas un homme de la Renaissance, c'est vraiment un homme du Moyen-Âge. La deuxième idée, je vais vous la démontrer ensuite également, on va y revenir, mais ce n'est pas non plus un humaniste. Vous savez, les humanistes sont ceux qui retrouvent les textes anciens, les textes latins, les textes grecs. Ce sont ceux qui prouvent, selon Platon, qui prouvent tout ce qu'ils disent par le retour au texte, le recours au texte ancien. Léonard de Vinci ne parle pas latin, ne l'écrit pas, ne le lit pas non plus. Il l'essaiera, même vers 40 ans environ, il l'essaiera, il tentera un petit peu de le lire, le latin, mais il n'y arrivera pas. Pas toujours, il ne parle pas du tout le grec, il ne le lira jamais, bien sûr, et il ne parle pas non plus l'italien, notre Léonard, notre bonhomme, il ne parle que le florentin, qui est une espèce de patois local, c'est presque du toscan, c'est le toscan, c'est le patois local, et d'ailleurs quand il ne signe pas Leonardo en italien, il signe Leonardo en florentin, en toscan. Donc voilà, voilà notre bonhomme qui arrive au monde dans un monde qui est déjà différent de tout ce qu'on veut bien nous apprendre, et il est un homme différent de tout ce qu'on nous apprend habituellement. Et c'est un deuxième travail que je vais vous demander, c'est d'oublier également l'image habituelle d'un Léonard de Vinci, cette espèce de vieillard à la longue barbe qui traîne par terre, il est presque en train de se marcher dessus, avec ses longs cheveux, cette espèce de vieillard, vous voyez, avec les longs vêtements qui traînent par terre, constellé d'étoiles et de constellations, cette espèce de Perforas, Merlin l'Enchanteur et Nostradamus mélangés. Voilà l'image d'un Léonard qu'on veut bien nous faire croire qu'il a existé suite à ce fameux autoportrait de 1512 qu'on veut également nous faire croire qu'il est vrai. Eh bien, sachez que cet autoportrait, qui ne s'appelle d'ailleurs pas comme ça, cet autoportrait de 1512 est un faux du 19e siècle. Léonard de Vinci n'a jamais ressemblé à cela. Ce que vous voyez, cette espèce de vieillard que vous voyez sur l'autoportrait, est un personnage de 100-120 ans à peu près. Léonard n'est mort qu'à 67 ans. Donc même si, effectivement, au Moyen-Âge, je veux bien être d'accord, le poids des ans est différent d'aujourd'hui, Léonard ne ressemblera jamais à cela. Nous ne savons pas aujourd'hui officiellement à quoi ressemblait Léonard. Il n'y a pas de portrait de Léonard de Vinci. Alors je triche un petit peu, vous verrez, puisque tout à l'heure je vous présenterai quand même une image de Léonard de Vinci, mais très très loin de celle que l'on a l'habitude de voir. Donc on est là ensemble pour réellement décoder Léonard de Vinci. Alors, premier vrai apprentissage de Léonard, c'est grâce à son grand-père. Il faut quand même savoir également que Léonard est un enfant naturel. On appelle ça aujourd'hui un bâtard. Léonard est un bâtard. Son père, Ser Piero da Vinci, est un notaire, un notable, très connu, très influent à Florence. Et sa mère, Caterina, est une paysanne. On dit que Léonard a été conçu dans le foin, vous savez, très simplement. Et ses parents ne sont pas mariés. Et Léonard est donc le petit paysan de la famille. Son père va se remarier plusieurs fois. Il aura jusqu'à 6 femmes, d'ailleurs. Il aura des enfants avec d'autres femmes également. Léonard aura des demi-frères qui, eux, auront la chance de pouvoir parler latin et grec. Donc, et d'avoir de l'instruction. Lui, Léonard, n'est que le petit paysan de la famille. Et en tant que tel, il va être élevé à la campagne par son grand-père. Son grand-père qui est peut-être le personnage le plus extraordinaire de la vie de Léonard. Et son grand-père, vous savez qui est le grand-père qu'on rêverait tous d'avoir, même si nous avons tous et toutes eu un grand-père fabuleux, des grands-parents fabuleux, on est d'accord, mais c'est le fameux grand-père idéal, vous savez, ce grand-père qui nous emmène dans la campagne et qui nous raconte la nature, qui nous raconte les animaux, qui nous raconte la vie concrètement, qui nous raconte la vie telle qu'elle est réellement. Eh bien, ce grand-père va lui apprendre la base de l'éducation telle qu'elle est réellement. Et il va lui dire deux choses qui sont fondamentales, deux idées qui sont fondamentales quand on veut comprendre réellement qui est Léonard de Vinci. La première idée, elle est typiquement médiévale. Cette idée, c'est qu'il doit vivre la vie chaque jour comme si c'était le dernier. Vie chaque jour comme si c'était le dernier. C'est une notion très médiévale, finalement, quand on y réfléchit, parce qu'on ne vit pas vieux. Au Moyen-Âge, vous le savez, on peut mourir d'une épidémie comme ça qui passe, on peut mourir assassiné au coin d'une rue, même si parfois ça n'a pas beaucoup changé, je suis d'accord, mais on ne vit pas vieux au Moyen-Âge. La deuxième idée, peut-être, est encore plus forte, encore plus grande. Il lui dit, en italien, dans l'italien, dans le florentin local, il lui dit Pollocchio, ouvre l'œil, regarde les choses comme si c'était la première fois que tu les voyais. Regarde les choses comme si tu devais les reproduire le plus précisément possible. Regarde les choses comme si tu devais comprendre comment elles fonctionnent. Et enfin, regarde les choses comme si tu devais les améliorer. Voilà la base réelle de l'éducation de Léonard de Vinci. Vous avez là, avec ces deux idées, grâce à son grand-père, Léonard de Vinci tel qu'il sera toujours, toute sa vie. Tout ce qu'il va recevoir après, Léonard est une éponge, Léonard est un passionné, Léonard, adore apprendre. Il nous dit d'ailleurs toute sa vie, tout le long de sa vie, plus on apprend, plus on grandit. Eh bien, ce Léonard, qui est une éponge absolue, tout ce qu'il va apprendre, il va le baser sur ces deux idées, à savoir vivre chaque jour comme si c'était le dernier, donc vivre à fond. Et lui qui est un passionné, il vivra plusieurs passions par jour en même temps. Et c'est très important à comprendre pour la suite, vous allez voir. Et également, donc regarde les choses le plus précisément, comme si tu devais les reproduire et les améliorer. Les comprendre et les améliorer. Alors, le premier vrai tournant, en fait, dans la vie de Léonard, qui aurait pu rester, en fait, un paysan remarquablement instruit de la nature, attention, et non pas instruit sur les livres, le premier vrai tournant lui vient de son père, qui finalement va être son meilleur agent. Son père vient le voir un jour, il lui dit, voilà, un paysan m'a apporté un bouclier rond, on appelle ça une rondache, et il m'a demandé que tu puisses le décorer rapidement. Bon, il faut comprendre aussi qu'en Italie, les boucliers servaient à l'époque, servaient à décorer le dessus des portes d'entrée des maisons, un petit peu peut-être une réminiscence des Vikings. Vous savez que les Vikings ont envahi la péninsule italienne quelques siècles auparavant. Et cette décoration veut dire en tout cas, le maître de Séan est quelqu'un de puissant. Si vous lui cherchez querelle, il peut vous arriver des noises. Léonard fait comme il fait d'habitude, il réfléchit, il part dans la campagne en se disant, un bouclier sert à se défendre, c'est vrai, mais ça doit servir également à faire peur. Et le voilà parti donc dans la campagne à la recherche de petits animaux. Il va dénicher des rats, des chauves-souris, des papillons, des insectes, enfin tout ce qui peut lui tomber sous la main, des lézards, des serpents, etc. Il les rapporte dans sa pièce, dans sa chambre. Il va s'enfermer à double tour. Il est le seul à pénétrer dans cette chambre. On est en Italie, souvenez-vous, il fait chaud. Et il va décortiquer tous ces petits animaux pour en faire un monstre imaginaire, un monstre réel en trois dimensions. Et il va décortiquer ces animaux. Il va prendre une patte par-ci, un œil par-là, une aile par-ci par-là, etc. Les animaux vont entrer rapidement en putréfaction, puisqu'on est évidemment dans un pays chaud, donc ça va être une infection, mais il ne la sent pas. Il est tout entier dans son œuvre, tout entier dans son art. Et quand enfin il ouvre la porte, il permet à son père de voir le résultat de son travail. D'abord, son père, vous imaginez le choc, le premier choc est olfactif, il manque tomber dans les pommes, bien sûr. Le second est visuel, est artistique. Là, il comprend que son fils a réussi quelque chose d'assez unique. Il comprend enfin que son fils n'est pas un simple petit dessinateur, comme on lui avait dit, comme ça, parce qu'il le connaît très mal à l'époque, bien sûr, qu'il a vraiment un don, et il décide à ce moment-là de le mettre en apprentissage chez Verrocchio, qui est le plus grand maître, parce que quand on est c'est Al Piero da Vinci à Florence, on est très influent, et donc il a la possibilité de le mettre chez le plus grand maître florentin de l'époque, c'est Verrocchio, l'atelier de Verrocchio, la Bottega, et dans cet atelier, il va avoir la chance, notre Léonard, il a 15-16 ans environ, il va avoir la chance extraordinaire de suivre l'instruction du maître le plus polytechnicien de l'époque. Polytechnique, il connaît toutes les techniques possibles. Cela va de la peinture à la sculpture, en passant par la fonderie, la musique, les mathématiques, la philosophie, etc. Et Léonard, qui déjà est une éponge, qui adore apprendre les choses, il va apprendre un maximum, bien entendu, chez Verrocchio. Il n'est pas tout seul, ceci étant. Quand il arrive, il n'est pas le seul étudiant, il n'est pas le seul apprenti, comme on dit à l'époque. Il y a avec lui d'autres apprentis aussi jeunes que lui, qui deviendront également un peu connus par la suite. Ils s'appellent Botticelli, Ghirlandaio, Le Pérugin et Botticini. Ces apprentis seront des peintres, ne seront que des peintres, entre guillemets, parce que quel peintre ? Et lui, qui arrive et qui ne connaît pas le latin, qui ne connaît pas le grec, encore une fois, c'est le petit paysan local qui arrive, alors qu'eux connaissent tout cela, eh bien, il va être obligé de, comme on dirait aujourd'hui, pédaler plus vite que les autres. Et il va être celui qui toujours va voir ce que les autres ne voient pas. Il va être celui qui va voir plus loin, qui va avoir la chance d'utiliser le pollocchio de son grand-père, d'ouvrir l'œil. Il va être celui qui va voir ce que les autres ne verront pas. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'apprentissage dure environ 7 à 9 ans. C'est excessivement long, 7 à 9 ans. Et 7 à 9 ans pendant lesquels vous n'avez le droit que de porter les pinceaux du maître. Vous avez le droit également de les nettoyer si vous avez été sage. Vous êtes celui qui prépare les pigments pour le maître. Voilà le travail de l'apprenti. Il est celui qui regarde, qui prépare les pigments. Et vous savez d'ailleurs que de là, de la préparation des pigments, vient l'expression broyer du noir. Broyer du noir, concrètement, on broie des pigments pour en arriver à la couleur la plus difficile à réaliser, le noir parfait, et broyer du noir, c'est très dur, très compliqué, très pesant, et d'où l'expression broyer du noir. Alors, Léonard ne mettra pas 7 à 9 ans pour être le meilleur élève, pour finir son apprentissage et être le meilleur élève en plus de Verrocchio, il mettra 2 ans seulement. Et au bout de 2 ans, il va avoir l'insigne honneur, la chance suprême de travailler avec le maître. Verrocchio a reçu une commande, cette commande c'est le baptême du Christ. Dans le baptême du Christ, il a prévu, en bas à gauche de l'œuvre, en bas à droite du Christ, de peindre deux angelots pour affiner peut-être l'ensemble. Et il va dessiner le premier angelot de droite et laisser à son meilleur élève l'insigne honneur, la possibilité de dessiner celui de gauche. À gauche pour nous. Alors c'est le moment où je suis un peu dur avec Verrocchio, moi qui suis incapable de dessiner le moindre visage, le moindre trait de quoi que ce soit. C'est le moment où je suis dur avec Verrocchio parce qu'on a l'impression quand on regarde son angelot, l'angelot de droite, qu'il a pris une sorte de raclée, son angelot, comme un coup de poing au visage, que son visage est tuméfié, qu'il a presque un œil au beurre noir, tandis que celui de Léonard est parfait. Le visage est poupon, les joues sont bien roses, la chevelure est parfaitement ondulée, comme vous pouvez le voir. Et surtout, le drapé est remarquable. Le drapé, Léonard, qui adore les vêtements, qui adore les beaux drapés, qui adore les étoffes, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est un dandy, Léonard, un dandy mais pas un mondain. Son étoffe est absolument parfaite, le tombé du drapé est absolument parfait. Les plis sont remarquables. Alors que celui de Verrocchio est un peu naïf, je dirais, un peu léger. Alors, la légende, selon Vasari, voudrait et veut d'ailleurs que Verrocchio ait été assez chagriné, pour ne pas dire frustré, et que son meilleur élève, même le meilleur, le dépasse complètement, et que à partir de ce moment-là, il n'ait plus jamais touché un seul pinceau de sa vie. Et effectivement, nous ne retrouvons plus de tableaux, ni de fresques, ni de peintures de Verrocchio depuis ce moment-là. Par contre, Verrocchio va continuer la sculpture. Et parmi ces sculptures, il y a le fameux David. Alors je vous disais tout à l'heure, nous n'avons pas d'image réelle, nous ne savons pas à quoi ressemblait Léonard de Vinci concrètement. Alors je vous ai un petit peu menti, je vous l'avais dit déjà, à ce moment-là, j'exagère un petit peu. Nous avons une représentation de Léonard, et c'est ce fameux David de Verrocchio. Nous savons aujourd'hui à 99% que c'est Léonard de Vinci que vous avez sous les yeux en contemplant le David. C'est effectivement Léonard, à 24 ans, qui aurait servi de modèle dans l'atelier de Verrocchio pour ce David. Voilà Léonard, presque 2 mètres de haut, c'est un géant. Léonard, on est loin, vous voyez, d'un futur vieillard qui est tout ramassé sur lui-même, bien sûr. Il fait presque donc 2 mètres de haut. Il a le visage fin, les traits fins, une chevelure plutôt moyenne, et toujours habillé de ses vêtements courts, là, en jupette, sur le David. C'est la mode de l'époque, c'est la mode qu'il a à l'époque et qu'il va conserver jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est donc définitivement cette image de Léonard qu'il faut maintenant que vous ayez à l'esprit, c'est cette image de cet homme qui est presque un géant, qui adore s'habiller de ses vêtements courts et qui, jusqu'à la fin de ses jours, s'habillera de cette façon. Il faut donc définitivement oublier ce vieillard à la longue barbe, vous savez, dont je vous parlais au début, et de ce fameux long manteau qu'on voit toujours, qu'on imagine toujours, cette espèce de père Fouras qu'on veut toujours nous faire croire. Voilà donc Léonard de Vinci tel qu'il faut que vous le gardiez en mémoire. Voilà donc quasiment certainement la seule représentation que nous ayons de Léonard de Vinci. Il a 24 ans à ce moment-là. Et 24 ans, c'est l'un des tournants de sa vie. 24 ans, c'est le moment charnière, c'est un autre moment charnière de la vie de Léonard. C'est ce qu'on appelle l'affaire Saltarelli. Et oui, le jeune Saltarelli est un jeune modèle de l'atelier de Verrocchio, la Bottega de chez Verrocchio. Et ce jeune modèle, qui est également un prostitué notoire, eh bien, les apprentis de Verrocchio vont être accusés de sodomie sur ce fameux Saltarelli. Et oui, Léonard et ses acolytes sont accusés de sodomie. C'est important, c'est un moment très grave quand même dans la vie de Léonard et dans la vie de ces jeunes apprentis. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est que dans toutes les villes italiennes de cette époque-là, c'est une horreur absolue. Il faut bien imaginer qu'il existe ce qui n'existe pas en France à ce moment-là, ce qu'on appelle les boîtes à dénonciation. C'est une horreur totale. Dans chaque ville, vous avez une boîte où tout un chacun peut venir déposer une lettre et dire, bien voilà, mon voisin a sodomisé 350 personnes, a tué dans la nuit d'hier 200 personnes à coups de couteau. Enfin, vous dénoncez qui vous voulez, comme vous voulez. Bien sûr, vous ne donnez pas de preuves. Vous ne dites évidemment pas qui vous êtes non plus. Vous ne signez pas. Et la police fait son office chaque jour, vient ouvrir la boîte à dénonciation et vient chercher qui est accusé de telle ou telle chose. Voilà comment sont accusés les apprentis de l'atelier de Verrocchio. À partir de cette période, nous ne savons plus rien du tout de la vie sentimentale et intime de Léonard de Vinci. Nous ne savons plus rien. Il n'écrit plus rien et ses connaissances n'en disent pas plus non plus. Nous n'avons plus aucune preuve de quoi que ce soit. Alors la question qui vient toujours, c'est Léonard était-il homosexuel? Alors la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ça a réellement une importance? Maintenant, comme tout le monde pose la question, et que certainement tout le monde la posera, il me faut y répondre. Nous n'avons aucune preuve scientifique qui permettrait de dire oui ou de dire non. Maintenant, je vous ai dit, Léonard est un dandy, ce qu'on appellerait un dandy, mais pas un mondain. J'ai insisté là-dessus tout à l'heure, j'y reviens un instant. Ce n'est pas un mondain parce qu'il n'aime pas, les êtres humains, je dirais. Il faut voir Léonard de Vinci presque comme un autiste, comme quelqu'un qui préfère et qui adore parler aux animaux. Il se balade, vous savez, il se balade toujours avec une espèce de grand lézard, on appellerait ça un varan aujourd'hui. Un grand lézard, il se baladait avec ça, il lui avait mis des ailes, des écailles, etc. Enfin, des plumes, il lui avait mis un peu des tas de choses. Et il se baladait avec et il lui parlait comme un petit chien, il le promenait comme un petit chien. Il parlait beaucoup aux animaux, mais il ne parlait pas, ou très peu, aux êtres humains. C'était Léonard de Vinci. Seulement là, il est accusé clairement de quelque chose d'excessivement terre-à-terre, d'excessivement concret, qui le dérange plus que tout, et sa vie va en être bouleversée. À partir de ce moment-là, nous ne savons plus rien du tout de sa vie intime. Nous pensons vraiment de plus en plus que, comme on dirait, Léonard n'a pas de sexe. Il est au-dessus de cela. Pourquoi vivre avec un homme ou avec une femme? De toute façon, ce n'est pas son affaire. Il en est très très loin. Il est tout entier à son œuvre et à son travail. Alors, la première vraie commande de Léonard, il faut savoir qu'à presque 20 ans, il a tout juste 20 ans, il a le droit, c'est la première fois quand même dans l'histoire. À 20 ans, il peut ouvrir son propre atelier. Il va rester chez Verrocchio quand même, mais il faut savoir qu'il est inscrit à la guilde quand même des peintres à Florence. Il a tout juste 20 ans, ce qui est quand même excessivement extraordinaire. Sa première vraie commande, c'est l'adoration des mages. Et dans cette adoration des mages, vous avez déjà presque tout Léonard de Vinci quand vous regardez cette œuvre. Tout Léonard est là, vous avez là déjà le drapé, c'est drapé merveilleux, je vous ai dit, il adore les étoffes, notre bonhomme, eh bien il adore les reproduire et toute sa vie il adorera les reproduire. Vous avez des visages absolument divins, parfaitement lisses, presque trop lisses, il est encore un peu jeune, presque trop lisses, et vous avez ces perspectives et surtout, dans le fond, ce décor très léonardien, vous avez là presque une photographie sous les yeux, le premier plan est tout à fait parfait, et derrière, plus vous éloignez, plus vous avez cette espèce de flou artistique, ce flou léonardien qu'on appellera le sfumato. Le sfumato léonardien est déjà là. Tout l'ensemble de l'œuvre est déjà empreinte de Léonard de Vinci tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors on a coutume de dire, Léonard aurait pu s'arrêter là, il serait connu dans le monde entier encore aujourd'hui. Rien qu'avec cette œuvre-là, heureusement pour nous, il a continué. Alors juste pour vous donner une idée, pour vous montrer à quel point cette œuvre est déjà extraordinaire, est déjà magnifique, c'est de vous montrer une œuvre qui existe 30 ans à peine avant Léonard de Vinci, une autre annonciation, le même thème très exactement. Vous avez quasiment dans les mêmes postures, vous avez l'archange qui vient voir la Sainte Vierge, vous avez là un ensemble très sommaire, vous avez une pièce très sommaire, alors que si vous revenez à l'image, au dessin, à l'œuvre magnifique de Léonard de Vinci qui se trouve aux Offices à Florence, l'annonciation, vous avez là une œuvre très douce, très belle, très léonardienne. Alors Léonard est toujours à Florence et il s'ennuie un petit peu, notre bonhomme, parce qu'il faut quand même comprendre que les Médicis ne lui donnent pas grand-chose à faire. Léonard est dans une ville qui est excessivement platonicienne. Florence est déjà dans l'humanisme de la Renaissance. Florence est déjà partie dans la Renaissance, très loin. Elle est déjà très loin, Léonard, mais est encore un homme du Moyen-Âge, est un homme qui a appris Aristote, qui ne connaît qu'Aristote, qui ne sait que prouver par l'expérience, voilà le thème et le domaine aristotélicien, alors que les platoniciens prouvent ce qu'ils disent par le retour aux livres, aux livres anciens, au latin et au grec. Et comme je vous disais tout à l'heure, Léonard n'est pas un lettré. Léonard ne connaît ni le latin ni le grec, ne le connaîtra jamais. Il aura du mal à appréhender le latin. Il aura beaucoup de mal d'ailleurs, mais il essaiera même vers 30 ans, 40 ans encore, très tard, mais il n'y arrivera pas. Et il n'a que peu de choses à faire. Les Médicis lui donnent, pour être très clair, ils lui donnent presque à tondre le gazon, pour vous donner une idée. En fait, dans les grands jardins de la seigneurie florentine, et quand on connaît un petit peu Léonard, on imagine sa frustration extrême. Alors, son père sera assez souvent finalement son meilleur agent, on dirait aujourd'hui son meilleur agent, et il va lui trouver une commande à réaliser pour les moines du monastère et de l'abbaye de Scopeto. Cette œuvre, c'est un travail sur bois, c'est une peinture sur bois, c'est l'adoration des mages. Et Léonard va travailler pour les moines. C'est la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'art, que vous avez des visages avec autant d'expression, une expression aussi extrême. C'est la première fois que vous voyez ça. Pour vous donner encore une fois une idée avant d'aborder l'œuvre, vous avez une autre adoration des mages d'un personnage que vous connaissez, Botticelli, qui était donc avec Léonard dans la Bottega, dans le même atelier. Vous avez dans cette adoration des mages-là, qui suit, vous avez une adoration très simple, très sommaire, très belle, avec de magnifiques vêtements très florentins, très, très d'époque. Vous avez même un personnage qui regarde, on dirait aujourd'hui, il regarde la caméra au moment de la prise de vue. Vous avez une espèce de douceur, cette vierge qui présente son fils avec cette lumière qui descend, alors que dans le tableau de Léonard, vous avez un monde totalement différent. Vous avez des visages presque hystériques. Vous avez une foule en délire, presque hystérique, presque en train de se griffer le visage. Vous avez là des personnages qui sont en train de hurler, de crier une magnifique douleur, je dirais, parce qu'ils ont devant eux le Christ descendu sur terre. Il est venu pour laver les péchés du monde, pour prendre sur lui les péchés du monde. Et avec cette Vierge très hiératique, vous voyez comme elle est belle, vous voyez comme elle est douce, vous voyez comme elle est simple et comme elle est tendre et douce, alors que tout autour, toute la foule est en délire. Cette œuvre exceptionnelle, c'est quand même totalement différent de ce que peut faire Botticelli. Eh bien, cette œuvre, les moines de Scopeto vont être fous furieux, ils ne vont pas le payer un seul liard, ils ne vont pas lui donner une seule pièce d'or, parce que vous le voyez également, comme moi, comme eux d'ailleurs à l'époque, cette œuvre n'est pas terminée. Et oui, Léonard peut-être a considéré que pour lui elle l'était, mais pour les moines elle ne l'est pas. L'ensemble de l'œuvre est quasiment en noir et blanc. Vous voyez, ce ne sont juste que des dessins, et notre bonhomme qui est un passionné, je vous l'ai dit, il se passionne parfois plusieurs fois par jour pour plusieurs passions, eh bien, notre bonhomme va s'en aller, tout simplement. Il va quitter Florence et s'en aller pour Milan, parce que, comme je vous disais, à Florence, il s'ennuie, et Milan, c'est la seule ville qu'il trouve grâce à ses yeux. C'est la ville encore excessivement médiévale. C'est une ville qui est encore, qui travaille encore et qui vit encore, selon Aristote. Il va donc s'en aller, il va partir pour Milan et essayer de travailler pour Ludovic le Mort, Ludovic Sforza. Alors nous savons qu'il a envoyé son CV, notre bonhomme, nous avons encore son CV dans cette lettre. Il dit, votre excellence, très chère excellence, je suis capable, c'est un CV à l'anglo-saxonne, pas un CV à la française, un CV à l'anglo-saxonne. Il dit ce qu'il est capable de faire et non pas ce qu'il a fait. Et il dit, je suis capable de vous faire la plus belle ville du monde, je suis capable de vous faire les plus belles machines de guerre, je suis capable de vous faire les plus belles fortifications, etc. etc. Et tout à la fin, presque avant de signer, il dit, je suis également capable de peindre pas plus mal qu'un autre. Très concrètement, quasiment mot pour mot, textuellement, pas plus mal qu'un autre. C'est dire à quel point, à quel niveau notre bonhomme place la peinture, place l'art. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'art majeur, c'est l'art de la guerre et ce n'est pas l'art pictural. Juste quand même une petite chose, c'est que nous avons de la chance d'avoir conservé l'adoration des mages, qui est encore une fois aux offices à Florence, parce que les moines de Scopetto vont la mettre dans le grenier. Nous avons de la chance, une chance énorme, d'avoir pu la conserver. Alors, Léonard arrive à Milan. Il est bien entendu accueilli par le duc de Milan, qui lui ouvre les bras. Bien sûr, vous imaginez un ingénieur tel que Léonard, un scientifique tel que Léonard, capable de travailler pour lui. C'est le bonheur. Alors, Léonard, c'est le moment où, vulgairement, on dit qu'il va s'éclater. C'est le moment où il va donner toute sa grandeur, toute sa splendeur. C'est le moment où il peut toucher à tout. Il arrive à Milan et c'est pour lui la découverte d'un nouveau monde. Très concrètement, il va se passionner pour les petites roues dentées. Vous savez, ces roues crantées qu'il va dessiner de nombreuses fois, que l'on voit dans les différents codex, Arundel, Windsor et compagnie. Et avec ces roues dentées, encore une fois, il va mettre en application les préceptes de son grand-père. Pollocchio ouvre l'œil, regarde, essaye d'améliorer, voit à quoi ça sert. Et ces roues dentées, il va en faire des automates. Car pour Milan, il va travailler donc pour le duc et il va être le plus grand metteur en scène que l'Italie de l'époque est connue. Tout simplement, il va être le metteur en scène des mariages princiers, des mariages des enfants du duc, et pour eux, il va réaliser les plus belles choses, et donc les premiers automates qui vont marcher tout seuls, qui vont rouler plutôt tout seuls sur des scènes magnifiques. On va se déplacer de tout le Milanais pour voir ce qu'est capable de faire, ce qu'est capable de réaliser cet enchanteur. C'est un magicien, il peut tout, notre Léonard, mais pas une fois, on parle de lui en tant qu'artiste, on parle de lui en tant que magicien, en tant que scientifique extraordinaire, en tant que mathématicien. Et donc il va enchanter la cour par des fastes extraordinaires. Il va, pour vous donner une idée, il va créer un œuf gigantesque de presque 6 mètres de haut qui va tourner sur lui-même, qui va s'ouvrir sur plusieurs facettes et qui va raconter tout simplement la vie des Sforza telle qu'elle est, avec de la musique. On sait qu'il va faire la musique, on sait qu'il va faire des décors, on sait qu'il va même jouer la musique, il va peut-être même chanter, nous savons qu'il chantait également. Il est capable de tout, il va faire les décors et également les costumes de tous les artistes. Alors, comme c'est un grand passionné, il se passionne pour plusieurs choses en même temps. Et il ne fait pas tout, il ne fait pas une chose après une autre, mais il fait tout en même temps. Et à ce moment-là, après être passé sur les fameux automates, il y a un autre mécanisme qui le titille, qui le fait fantasmer, dirais-je. C'est la plus grande des mécaniques qui existent, c'est l'être humain. L'homme. Alors je vous ai mis en premier, vous pouvez voir, la façon dont on représente l'anatomie, l'homme, à Vienne, à la même époque exactement que Léonard. Et vous voyez là un personnage avec, vous voyez, vous avez les organes qui sont rapidement représentés, où on ne dit pas trop à quoi ils servent, on ne dit surtout pas trop ce que c'est, on dessine vaguement et on ne va pas plus loin, on est juste médecin, on n'est pas scientifique du tout. Pour Léonard, qui encore une fois à la chance d'avoir le Pollocchio, il va essayer de savoir comment fonctionne cette mécanique, comment fonctionne cette machine magnifique qui est l'être humain, à quoi ça sert et peut-être comment on peut l'améliorer d'ailleurs. Et il va être le premier à nous montrer la colonne vertébrale telle qu'elle est réellement. Il est le premier à découvrir que le cœur est une pompe qui fait circuler le sang dans un sens. Alors il va se tromper de sens, c'est vrai, mais il est le premier à avoir cette intuition-là. Il est le premier à travailler sur l'œil humain et sa perception. Il est le premier à découvrir de nombreuses choses. Alors, comment fait-il, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, il est allé à Padoue, qui est dans le Milanais, Padoue, et à l'université, et dans les sous-sols de l'université, il déterre une trentaine de cadavres, or 30 ou plus, peu importe, une trentaine de cadavres, et il va travailler dessus, et il va travailler dessus nuit et jour, parce que les cadavres se décomposent, qu'évidemment, il fait très chaud, toujours en Italie, et que, évidemment, l'odeur, encore une fois, est abominable. Alors, il va travailler nuit et jour dessus, avant qu'il ne se décompose complètement. Quand il passera dans les couloirs d'ailleurs, on dira de lui, il sent la mort cet homme. Vous imaginez un peu la réputation de Léonard à ce moment-là. Il est le premier à travailler aussi sur le fœtus et le développement des fœtus. C'est vous dire, je vous laisse penser ce qu'il a dû déterrer. Et il déterre et il scie les corps et il les découpe et il plonge les mains dans les boyaux encore froids. Enfin, bon, c'est une horreur absolue. Et n'oubliez pas une chose. Nous sommes encore au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, il y a la Sainte Inquisition qui ne va bien sûr pas le rater. Quelqu'un qui déterre les cadavres, il n'a pas le droit, il n'est pas médecin non plus. Mais Léonard va être accusé, c'est sa deuxième accusation. Il va être accusé d'hérésie, Léonard. Il va être accusé également de nécromancie. Et chose complètement incroyable, il est également accusé de vouloir redonner vie à des corps humains. Ben oui, lui qui avait travaillé sur les automates qui bougeaient tout seuls, on pouvait penser qu'il cherchait à être le premier docteur Frankenstein, entre guillemets. Et la plupart de ses travaux sont déjà des travaux précurseurs. La plupart des planches sont des planches anatomiques qu'on pourrait qualifier quasiment de contemporaines d'aujourd'hui, qui ne changeraient rien aux planches que nous avons aujourd'hui. La plupart de ces travaux ont été redécouverts trois siècles plus tard. Alors pourquoi redécouverts ? Eh bien tout simplement parce que, ma langue n'a pas fourché cette fois, redécouvert parce que l'Inquisition va lui mettre entre les mains une sorte de chantage, si vous voulez. C'est soit, en gros, il garde pour lui tous ses travaux et il ne sera pas inquiété, soit il les diffuse, et alors là, il faut s'attendre à un procès, à un tribunal, etc. Et n'oubliez pas qu'il a quand même avec lui, heureusement, le duc de Milan, Ludovic Sforza, et il choisit donc de garder pour lui, de conserver tous ses documents, et il faudra donc attendre Vassal et tant d'autres qui retravailleront sur le corps humain et qui découvriront ce que, trois siècles plus tard, ce que Léonard avait découvert donc à cette époque-là. Nous sommes bien avant, quelques années avant 1500, donc juste avant le 16e siècle. Voilà pourquoi on a perdu trois siècles à cause de l'Inquisition, trois siècles de travaux de Léonard de Vinci. Alors ce grand passionné fait plusieurs choses à la fois. Et il y a une chose notamment qu'il adore au moment où il est dans le Milanais. Il adore, comme on dit, croquer des gueules. Croquer des gueules, c'est dessiner des visages, c'est-à-dire se promener dans la campagne, aller dans les auberges, et puis dessiner des visages expressifs, des visages un peu différents, des visages forts. Il y a une anecdote d'ailleurs, puisqu'on est entre nous, j'ai le temps de vous la raconter, une anecdote que Vasari nous raconte. Il est un jour dans la campagne, il rentre dans une auberge pour se désaltérer, et puis il voit à ce moment-là un personnage avec une gueule fantastique, une gueule extraordinaire. Alors il se lève, il renverse la table, tellement il ne tient pas compte de ce qu'il y a devant lui, il renverse la table, les verres, enfin il s'approche de notre homme et il dit « Oh, cher monsieur, vous avez une gueule extraordinaire, est-ce que vous souhaiteriez, est-ce que ça ne vous dérangerait pas d'être pour moi mon Judas ?» Bonjour, le compliment. Alors le bonhomme dit « Écoutez, oui, ça ne me dérange pas, bien sûr, mais il y a quelques jours, vous m'avez déjà demandé d'être votre Christ. » Donc voilà, vous avez un Léonard qui est tout entier dans son monde, qui ne prend pas garde à ce qui se passe, ni à qui, ni à quoi, et qui peut rencontrer plusieurs fois la même personne, et puis voir dans un visage une chose, et puis dans le même visage, quelques jours après, voir autre chose. Ça peut être un nez, ça peut être une oreille, un œil, ou les deux, enfin, etc., etc. Voilà Léonard de Vinci. Et pourquoi demandait-il ça ? Parce qu'à ce moment-là, il travaille sur une commande pour un monastère, pour un réfectoire, et dans au fond de ce réfectoire, il y a un grand mur blanc donc, que les moines lui demandent d'agrémenter. Et bien entendu, comme nous sommes dans un réfectoire de monastère, et comme dans tous ceux de l'Europe occidentale de cette époque, il faut dessiner une scène, l'ultime repas du Christ. Nous sommes à Sainte Maria de Grâce, Santa Maria delle Grazie, et bien entendu, je vais parler de la scène de Léonard de Vinci. Alors d'abord, avant d'entrer dans les inepties qu'on a pu lire à droite et à gauche, ou entendre, bien sûr, ou voir, même pour ceux qui ont vu le film, il nous faut parler de l'œuvre en elle-même, cette scène magnifique, cette scène qui fait venir les foules du monde entier. Vous voyez, dès le départ, que cette scène n'est pas à hauteur d'homme, elle est à presque 2 mètres de haut, et il nous faut lever la tête pour la regarder. Ce mathématicien génial, je vous ai dit, Léonard n'est pas un artiste, c'est un mathématicien, c'est un ingénieur, c'est un scientifique. Ce mathématicien génial avait déjà exercé, vous voyez, son travail sur la perspective. Il avait créé une sorte de trompe-l'œil. Et vous voyez, la fresque va jusqu'en haut, hein. C'est les nervures que vous voyez sont des nervures dessinées, ce ne sont pas des vraies. Donc l'ensemble de la fresque est en fait l'une des plus grandes de cette époque-là. Elle fait 9 mètres de large et en haut presque un peu plus de l'équivalent. Cette perspective ne va pas être gênée du fait que quand vous levez la tête, vous voyez quand même grâce au dessin, grâce au travail du mathématicien et du géomètre qu'il est, vous voyez quand même le dessus de la table, vous voyez le dessus qu'il a bien voulu nous montrer. Alors on va rentrer concrètement dans l'œuvre elle-même et d'abord on va aller directement sur les inepties que l'on peut entendre. Alors Dan Brown nous dit dans Da Vinci Code, parce qu'il a lu beaucoup d'œuvres, notamment l'Énigme sacrée et tant d'autres bien sûr, ce n'est pas Saint-Jean, c'est Marie-Madeleine, nous dit Dan Brown. Alors la vraie question, la première question qu'on se pose, si c'est Marie-Madeleine, où est Saint-Jean? Il manque un des apôtres. Et comme nous sommes quand même dans un réfectoire de monastère, l'un des moines l'aurait peut-être attrapé par le col en lui disant « Excusez-moi mon cher, mais merci de nous remettre les bonnes personnes aux bonnes places ». Donc déjà, première chose, c'est vrai que le personnage est androgyne, mais dans toutes les scènes, le personnage est androgyne, quelles que soient les scènes. Et je vous en ai mis quelques-unes après. Vous allez pouvoir voir des scènes médiévales où vous voyez Saint-Jean qui est le plus jeune de tous les apôtres. Et les personnages de Léonard, les jeunes adolescents, sont toujours des personnages un peu androgynes. Et il est toujours représenté tout contre le Christ. On revient donc à la scène de Léonard. L'autre idée, c'est de nous dire qu'il y a également un M entre Judas, entre Saint-Jean et entre le Christ. Il n'y a pas plus de M que de W, parce que vous pouvez également vous faire un W et imaginer un complot avec un Walter ou une Wendy ou ce que vous voulez. Vous pouvez faire un A avec le Christ et toutes les lettres de l'alphabet fonctionnent quasiment dans cette œuvre. Donc, bien sûr, il n'y a pas à voir ici de lettres cachées ou quoi que ce soit, ni quelconque code qu'il puisse y avoir. Imaginez quand même avec les autres scènes que j'ai pu vous mettre dans le document, imaginez que si jamais c'était effectivement Marie-Madeleine, il y a quelques images qui seraient quand même un peu tendancieuses tout de même, notamment quand elle est sur ses genoux. Alors, la dernière idée, c'est dans le film, je crois, où le metteur en scène découpe ce qu'il nous dit être Marie-Madeleine et la met contre le Christ en disant, vous voyez, c'est la preuve que c'est Marie-Madeleine puisqu'elle a le visage directement sur le Christ. Eh bien, vous pouvez vous amuser avec Photoshop à les découper et à les mettre sur tous les apôtres. Et oui, c'est effectivement bien une catin, cette Marie-Madeleine, parce qu'effectivement, elle peut être couchée quasiment sur tous les apôtres de la scène. Donc, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça n'est qu'une espèce de fumisterie, une espèce d'ânerie. Nous allons maintenant entrer concrètement dans l'œuvre léonardienne, la vraie celle-là, et je vous promets qu'il n'y a pas de code caché, ou plutôt il y a un code caché, vous allez voir, il y en a un vraiment, mais pas de quoi, vous allez comprendre, pas de quoi mettre à mal toute la liturgie et toute la religion. C'est donc le dernier repas du Christ avec ses apôtres et Léonard choisit, parce que vous savez, dans toutes les scènes, il y a un moment préféré donc par les artistes. Léonard choisit, lui, le moment le plus critique, c'est le moment où le Christ dit, annonce, en vérité je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Et vous avez à ce moment-là la réaction des apôtres qui est, je vous ai dit tout à l'heure, Léonard est l'un des plus grands metteurs en scène que l'Italie ait connu. Et la réaction des apôtres, c'est une réaction de mise en scène, c'est une réaction excessive, presque commedia dell'arte avant l'heure, où vous avez les apôtres qui se récrient et qui disent comment, mais enfin, Seigneur, vous n'y pensez pas, et qui se retournent, et qui se mettent la main sur l'épaule, et qui se parlent les uns les autres, et par quatre groupes de trois apôtres, qui sont tous dans une véritable mise en scène, sans mauvais jeu de mots bien sûr, une véritable mise en scène, et vous avez tous les apôtres qui sont tous ensemble, sauf un seul qui sort de la scène. Là, vous l'écrivez comme vous voulez, C-E-N-E ou S-C-E-N-E, bien sûr. L'un des apôtres sort d'un coup de coude, il est éjecté sur le devant de la scène, il sort de la lumière divine où ils sont tous plongés, et il est le seul à avoir le visage dans l'ombre. Il est juste à côté de Saint-Jean, juste à côté de Saint-Jean, et il est celui également qui tend la main, puisque vous savez que le Christ avait annoncé « Celui qui me trahira est celui qui a mangé dans le même plat que moi ». Et ils ont presque la main ensemble, dans le même plat. Voilà le génie absolu de Léonard. Vous avez dans cette mise en scène réelle, un moment, c'est presque une photographie, la photographie de la réaction des apôtres à ce moment-là. Alors, je vous parlais du code caché. Effectivement, le seul code caché qu'il puisse y avoir, c'est une espèce de, on dirait, private joke aujourd'hui. Eh bien, Léonard a choisi de dessiner sur la table les véritables ustensiles qui sont réellement utilisés par les moines du monastère, à savoir les assiettes, les couteaux, les verres, etc. Et sur cette table, vous avez tous les codes de la liturgie. Vous avez le pain, vous avez le vin et vous avez bien sûr le couteau qui dépasse, le couteau qui servira à couper l'oreille du garde venu chercher le Christ sur le mont des Oliviers. Voilà le génie absolu de Léonard dans cette scène. Il n'y a rien de caché. C'est une œuvre absolument sublime, une œuvre absolument somptueuse. C'est également la première fois que vous avez tous les acteurs, j'allais dire, du même côté de la table, parce qu'habituellement, vous en avez soit 6 d'un côté, 6 de l'autre. Vous avez d'autres, je vous ai mis d'autres scènes. Vous allez voir, ils sont autour de table, soit pour éviter de faire des visages, parce qu'encore une fois, c'est très dur de faire des visages, soit bien pour isoler complètement Judas, le traître, dans la dernière, celle de Ghirlandaio. Ghirlandaio, encore une fois, un ancien camarade de chez Verrocchio avec Léonard. Vous avez le Judas qui est donc tout seul d'un côté, alors que tous les autres sont de l'autre côté. Dernier truc de metteur en scène, en fait. La table de Léonard est trop petite pour contenir tous les apôtres. Donc, encore une fois, ils sont tous vers le Christ dans une mise en scène absolument magnifique. Voilà l'œuvre réelle, voilà la scène telle qu'elle est, telle qu'il faut la voir. Et on va maintenant arrêter de parler de Dan Brown et de ses âneries. Voilà donc l'œuvre majeure, l'une des œuvres majeures de Léonard, qui fait dire à Proudhon, que c'est l'un des plus beaux tableaux du monde. Alors, il parle de tableau, mais c'est en fait une sorte de fresque. Je dis une sorte parce que c'est pas réellement une fresque sans en être une. C'est une peinture sur un mauvais mur, et c'est une mauvaise peinture sur un mauvais mur. Parce que quelques années après que Léonard l'ait faite, eh bien, elle commencera à s'effriter. Du fait, d'abord, de Léonard lui-même, qui n'a jamais su, et j'y reviendrai tout à l'heure, il n'a jamais su faire de fresque. C'est un homme extraordinaire, mais parfois un peu têtu. Parfois avec une espèce de complexe de supériorité, et il ne voudra pas toujours faire comme les techniques traditionnelles. Et dans ses fresques, il sera toujours loin, très loin même, de ce qu'il faudrait faire. Nous allons passer maintenant à la dernière des grandes œuvres de Léonard dans le Milanais, c'est le fameux Cavalier Sforza. Le Cavalier Sforza, c'est peut-être le grand fantasme de Léonard, c'est peut-être son plus grand rêve. Il faut bien comprendre, Ludovic Sforza, le duc de Milan, Ludovic le Mort, veut représenter Francesco, son père, le condottiere, celui qui a conquis Milan par les armes et qui en est devenu le duc, donc par les armes, et qui est mort depuis. Il veut le représenter, lui rendre hommage, et le représenter dans une grande statue équestre, la plus grande qui soit. Et Léonard a relevé le défi et a dit à Ludovic, je suis capable de vous la faire, dans son fameux CV, et je suis capable de vous la faire, et il va vouloir faire la plus grande qui soit. Nous savons que cette statue devait mesurer près de 8 mètres de haut, qu'elle devait peser 70 tonnes et être coulée intégralement en bronze. Imaginez bien, intégralement en bronze. Il va même en faire une copie, notre Léonard, il va en faire une copie en terre cuite qui fera entre 4 à 6 mètres de haut, qui, dira-t-on, à l'époque, c'était déjà le plus grand et le plus extraordinaire des travaux qui soient sortis des mains d'un être humain. Donc, vous voyez déjà l'image que devait représenter la vraie qu'elle aurait dû représenter, parce que malheureusement, elle n'a jamais existé, la statue de bronze. Parce que nous sommes aux alentours de 1500 et qu'à ce moment-là, Milan est assiégé. Voilà les Français de Charles VIII et Louis XII qui sont en train de vouloir conquérir le trône de Naples. Vous savez, ils veulent conquérir Naples et retrouver leur trône et leur couronne. Et ils sont aux portes de Milan et il faut se défendre. Et à cette époque-là, pour se défendre, il faut des canons. Et pour faire des canons, il faut du bronze. Et chaque canon qui va sortir des fonderies de Milan, eh bien, Léonard verra un morceau de sa statue et une larme donc jaillira de ses yeux, bien sûr, parce que chaque canon qui va sortir, c'est un morceau de la statue qui s'en va. Et malheureusement, ça ne servira à rien, parce que Milan va tomber aux mains des Français. Ludovic sera fait prisonnier. Pire que ça même encore, les archers français qui sont des archers basques, qui sont des mercenaires basques à la solde des Français, vont arriver et vont tirer à coups d'arbalète sur la statue de terre cuite, parce qu'on dit qu'ils sont sous un peu comme des Polonais, voyez. Et ils vont tirer à coups d'arbalète, c'est très, effectivement très amusant, et ils vont détruire complètement, quasiment sous les yeux de Léonard, la statue. Il ne nous reste absolument rien, à part des esquisses de cette œuvre, qui aurait été certainement l'une des plus belles du monde, à n'en pas douter. Vous savez, à chaque fois que vous vous allez en Italie, quand vous allez en Italie, à chaque fois que vous passez dans un endroit un peu historique, quand quelque chose est détruit, eh bien, on vous dit toujours, c'est à cause des Français. C'est soit pendant les guerres d'Italie, soit au moment des conquêtes napoléoniennes. Donc, voilà, nous avons une très belle image, en général, dans ces pays-là. Alors Léonard doit quitter les Milanais, il n'a plus rien à y faire, il n'a plus de commanditaire surtout, et il souhaite rentrer à Florence, il en est parti depuis bien longtemps, bien sûr. Mais entre-temps, il a un travail, une commande à réaliser, et cette commande, il doit la faire pour un certain Bartolomeo di Zambini del Giocondo. C'est un vieux barbu jaloux qui veut représenter en peinture sa troisième épouse, et vous avez bien compris qu'il s'agissait de la Joconde, celle par qui j'ai donc commencé et que j'ai appelée Mona, de façon tout à fait irrévérencieuse. Ce tableau est un tableau de bois, hein, ce n'est pas une toile, c'est un tableau de bois. En quoi est-elle si exceptionnelle, notre Mona Lisa? Parce que quand on regarde, on la trouve belle ou on la trouve pas belle, mais on est très très loin des canons de beauté de l'époque. Pour vous donner une idée, vous allez à l'image d'après, vous donner une idée des canons de beauté de l'époque, c'est elle, c'est plutôt Vénus, la naissance de Vénus de Botticelli. Voilà le canon officiel, voilà le canon des femmes de l'époque, ces femmes blanches, ces femmes longues, avec un long cou et de longs cheveux blonds, et des thèmes excessivement païens, bien sûr. Alors que quand on regarde à Mona Lisa, on est donc très loin des canons de l'époque. On dit même qu'elle est plutôt grosse, cette Mona Lisa. On sait qu'elle a grossi depuis son mariage. On sait beaucoup de choses, vous savez, même les plus horribles. On sait qu'elle a perdu un enfant qui est mort-né à la naissance, donc. Nous savons tout cela. Et qu'elle a donc été peinte juste après. Alors, la vraie question, est-ce elle ou n'est-ce pas elle? Ça, peu importe, c'est vrai, effectivement. Nous ne savons pas si c'est effectivement ou non Mona Lisa. En tout cas, nous avons les contrats stipulant que c'est en tout cas elle qui aurait dû être peinte. Donc, en quoi ce tableau est si extraordinaire? Pourquoi est-ce que j'ai commencé par la Joconde tout à l'heure? Et pourquoi je vous ai dit toute la technologie de Léonard était dans la Joconde? Eh bien, parce que Vous allez comprendre. Léonard, très tôt, avait compris ce que nous appelons aujourd'hui les fractales. Léonard avait compris qu'un point peut être à deux endroits ou à plusieurs endroits en même temps et que l'œil humain est capable de voir plusieurs choses en une seule ou une chose en plusieurs. Alors ça paraît assez incroyable, ça paraît en tout cas assez complexe quand je le dis comme ça, et on va faire une petite expérience. Quand vous regardez la Joconde comme ça, vous allez boucher un œil avec la main, vous allez plaquer une main sur votre œil droit et regarder la Joconde et puis changer de main en enlevant l'autre bien sûr et vous changez d'œil. Et là vous voyez une chose assez incroyable, vous voyez que Léonard a en fait peint deux visages sur la Joconde, un visage qui sourit et un visage qui ne sourit pas. Voilà le secret, en tout cas l'un des secrets les plus importants de la Joconde. Vous avez un visage qui sourit et un visage qui ne sourit pas. Voilà le secret de Léonard qui avait compris exactement comment percevait l'œil humain. Léonard qui faisait vivre ses toiles, qui attendait qu'elles vivent d'elles-mêmes, ses toiles et ses peintures, parce que la scène n'est pas une toile. Léonard qui attendait que ses peintures vivent sous son pinceau d'elles-mêmes, a réussi à donner vie donc à ce visage, à ce sourire qui n'a plus grand-chose maintenant d'énigmatique, il est vrai. Et il va travailler pour César Borgia. Vous savez, César Borgia, le fils du pape, les papes ont des enfants à cette époque-là, ça ne gêne absolument personne. Et il va travailler pour César Borgia en tant qu'ingénieur militaire chargé de la réfection de tous les forts et fortifications. C'est une chance exceptionnelle. Voyez quand même, encore une fois, il n'est pas le peintre de la cour. Il est là en tant qu'ingénieur. C'est une chance exceptionnelle, je disais, parce que c'est le moment, c'est la période où il va le plus dessiner. Il va partir sur toutes les routes d'Italie, de l'Italie de l'époque, avec une sorte de carnet dans ses poches, et il va dessiner un nombre incalculable de choses. Et c'est le moment, et c'est également le moment où je détruis le mythe, vous allez voir. Je suis désolé à l'avance. C'est le moment où il va parcourir les plus belles bibliothèque du monde, il va rentrer dans ces belles bibliothèques et il va voir des œuvres fantastiques de Chiesa, de Tacola et de tant d'autres. Et c'est dans ces œuvres, il va y voir le parachute, il va y voir ce que nous appelons donc le parachute, l'hélicoptère, ce que nous appelons également le sous-marin ou le char d'assaut, etc. Je suis désolé de dire, Léonard de Vinci n'a pas inventé ces œuvres-là, n'a pas inventé le parachute, ni l'hélicoptère, ni le sous-marin, ni le char d'assaut, ni rien du tout. Léonard a recopié, c'est un compilateur génial, chez Chiesa, Tacola et bien d'autres. En fait, ça reste un génie, parce qu'il faut déjà avoir l'idée de le recopier. Il ne le recopie pas pour dire « c'est moi qui les ai faits », bien sûr. Il les recopie, encore une fois, pour dire à quoi ça peut servir, et voire même comment je peux les améliorer pour l'art de la guerre. Tout ça pour l'art de la guerre. Voilà la grande partie de ces œuvres que l'on croit toujours, que l'on attribue toujours à Léonard. Eh bien non, ce n'est pas lui. Léonard va retourner à Florence, il en est parti depuis 18 ans, et en 18 ans, Florence a bien changé, bien sûr. Florence a connu la République, Savonarole et sa mort, et bien sûr, Florence n'a pas attendu Léonard. Florence a déjà ses peintres, a déjà ses mathématiciens, ses ingénieurs, etc. Et Léonard arrive, il n'a pas de travail, il erre sans travail, et pourtant, on va lui confier un des rêves de sa vie. À savoir le détournement de l'Arno. L'Arno, c'est le fleuve qui passe par Florence. Alors, la seigneurie florentine va lui confier ce travail. Pourquoi ? Parce que Léonard voulait faire de Florence un port maritime, et oui, un port de bord de mer, un port maritime qui pourrait concurrencer la sérénissime Venise. Alors, pour cela, il faut détourner l'Arno. Il va s'y employer. C'est un travail titanesque, vous imaginez. Florence est quand même assez loin. Quand vous voyez la géographie, Florence est quand même assez loin de la mer. Et c'est un travail titanesque. C'est presque un des 12 travaux d'Hercule qu'il va demander à réaliser là. Et on va lui donner l'occasion de le faire. Ça n'ira pas très loin parce que le résultat du détournement de l'Arno va être une véritable catastrophe pour Florence. Ça va donner un immense marécage nauséabond d'où va émaner la plus grande épidémie de malaria que l'histoire florentine ait connue. 14 000 morts vont sortir de ce désastre. C'est presque d'Attila dont je suis en train de parler et non pas de Léonard de Vinci. Et oui, 14 000 morts, c'est absolument incroyable. Léonard, qui est un génie à n'en pas douter, est aussi un être humain, est aussi un homme et il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, j'ai tendance à dire. Et Léonard a fait beaucoup de choses, vous savez. Et celle-là n'est pas certainement celle qui sera conservée dans les annales. C'est pour ça qu'on en parle assez peu. Et ce n'est malheureusement pas tout pour Florence, parce que la seigneurie a une autre idée qui, à la base, est une idée absolument géniale. Et quand je dis à la base, vous commencez à entrevoir que ça peut devenir une catastrophe. Et effectivement, ça va devenir quelque chose de spécial. Alors l'idée de base était... pour le Palazzo Vecchio, vous savez, le vieux palais à Florence, eh bien, de nous proposer sur deux murs qui se regardent, pour un mur, une fresque de Léonard, et sur le mur d'en face, une fresque de Michel-Ange. Donc, d'opposer les deux plus grands génies de l'époque, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Michel-Ange qui est plus jeune que Léonard, et il le déteste absolument. Michel-Ange, malheureusement, ne fera pas sa fresque. Nous n'avons pas ce magnifique combat, qui aurait été un combat de titans, bien sûr. Michel-Ange va partir pour la Rome des papes, et il va avoir plusieurs choses à réaliser, notamment, vous savez, peindre un plafond, une chapelle Sixtine, un peu connue, je crois. Mais Léonard n'a pas d'autre commande et il va s'atteler comme un forcené à sa fresque. Il choisit la bataille d'Anghiari, qui est une victoire des Florentins sur les Milanais en 1440. Alors, nous savons, parce qu'il a écrit beaucoup et il a beaucoup dessiné, que cette bataille devait être exceptionnelle. C'est une bataille épique et la façon dont il l'écrit, la façon dont il nous la raconte, vous avez presque là les prémices d'un Victor Hugo. Mais je vous ai dit que Léonard était parfois un peu prétentieux, et notamment sur les fresques, où il veut faire les plus belles fresques du monde, donner la plus belle couleur, etc. Et pour la bataille d'Anghiari, il veut la plus belle qui soit. Alors, au mépris de toutes les techniques traditionnelles, il va s'employer à faire son propre enduit. Alors, comment fait-on une fresque? Parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, je vais prendre quelques instants, ouvrir une parenthèse. Une fresque, qu'est-ce que c'est? Une fresque, ça vient de l'italien, un fresco, qui veut dire « dans le frais ». Vous mettez des couleurs, vous peignez sur un enduit qui n'est pas encore sec, qui est encore frais. Voilà la base. Vous avez 4 étapes pour faire une fresque. La première, vous posez un mortier sur le mur. La deuxième étape, vous, avec à l'aide de charbon, vous faites vos dessins. La troisième étape, vous posez votre enduit. Et la dernière, vous posez vos couleurs sur l'enduit, donc encore frais, pas encore sec. Il y a une réaction chimique qui s'opère à ce moment-là. La peinture pénètre dans l'enduit profondément. Elle vient recouvrir ensuite, l'enduit, pardon, vient recouvrir ensuite la peinture. Et ça le recouvre pour le pour la maintenir, bien sûr, et pour lui donner un aspect brillant. Voilà la technique habituelle des fresques. Mais Léonard, lui, ne va pas faire cette technique-là. Il n'aime pas l'idée de poser un premier mortier. Il va poser un premier enduit et s'en aller. Vous avez compris que pour faire une fresque, donc mettre de la peinture sur un enduit qui n'est pas encore sec, il faut se dépêcher, il faut être assez rapide parce qu'une fois que ça sèche, c'est terminé. Et si vous faites une tâche sur un enduit pas encore sec, c'est terminé également. Elle est indélébile. Vous pouvez tout recommencer. Et si ça sèche, c'est pareil, vous pouvez tout recommencer. Léonard va poser son enduit et il s'en va. Il part pour Fiesole, une ville à côté de Florence. Il part pour Fiesole. Il va se passionner. Ça va devenir un fantasme. Ça l'était déjà, mais c'est un véritable fantasme. Il se passionne pour le vol des oiseaux. Il va même écrire un traité sur le vol des oiseaux. Ça ne prend pas 3 minutes 50 d'écrire un traité. Et ça lui prend 5 mois. Et pendant 5 mois, il quitte donc sa fresque. Il revient, comme on dit, comme une fleur. Ensuite, il fait ses croquis. Il pose son deuxième enduit. Et ensuite, il prépare sa couleur. Pour faire sécher plus rapidement la fresque, il fait un petit feu de charbon au bas des murs pour faire sécher plus rapidement. Mais je ne sais pas si vous connaissez les murs du Palazzo Vecchio qui font presque 20 mètres de haut et il ne faut pas qu'un petit feu de charbon pour faire sécher l'ensemble. Et bien sûr, quand il va commencer à poser sa peinture, eh bien, elle va couler parce que l'ensemble n'est évidemment pas prêt. Elle va couler devant lui, devenir un barbouillé informe. Mais on nous raconte que c'est presque un cri de bête qui émane du Palazzo Vecchio. C'est comme si on lui avait arraché à notre bonhomme, si on lui avait arraché les bras. C'est une horreur absolue. Vous pensez bien, c'était un travail extraordinaire auquel il se préparait. Nous avons ses écrits, nous savons ce qu'il préparait. Nous n'avons malheureusement que des écrits, nous n'avons pas de dessins. Même si Rubens a essayé de le refaire, on est bien loin de ce qu'aurait pu nous représenter. C'est surtout totalement différent de ce qu'aurait pu faire Léonard, bien sûr. Ah, il va tout essayer, il va tout tenter pour essayer de rattraper sa fresque. Il va travailler, il va lire des livres sur les pigments quand même. Mais il ne pourra rien faire. Et Michel-Ange écrit à cet homme-là, il ne faut rien lui confier, il ne sait juste qu'imaginer, il ne sait pas créer, tout Florence va rire dans son dos. Et Léonard en est évidemment très meurtri, ça commence maintenant à lui picoter un petit peu dans le dos. Et ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, entre une fresque ratée et surtout un détournement de l'Arnaud qui apporte 14 000 morts, il va s'en aller, il va partir pour Rome, et il nous dit, je continuerai. Il part pour Rome parce que le pape Médicis a un frère, le cardinal Médicis, qui l'appelle donc auprès de lui. Il n'a pas de chance, quand il arrive, le cardinal meurt, et il se retrouve dans la Rome des papes, tout seul, avec en plus son pire ennemi, Michel-Ange, vous l'avez vu, en plus avec Raphaël et avec Bramante. Enfin, imaginez un instant quand même, dans la même ville, au même moment, Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci, ensemble. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner s'ils avaient travaillé à la même œuvre. Malheureusement, Léonard n'aura aucun travail à réaliser. Il est seul. Dans Rome, il n'a aucune commande. Alors nous sommes en 1515, voilà une date que les Français connaissent, c'est peut-être la seule que les Français connaissent, que nous connaissons, donc je vais la répéter, 1515, c'est l'avènement bien sûr de François Ier, c'est également la victoire de Marignan, Melegnano en italien et en Italie. Et voilà ce jeune roi de 20 ans qui arrive, qui entend parler de ce fantastique scientifique, de cet homme génial qu'est Léonard de Vinci, et ils vont entrer en contact. Alors je ne sais pas dans quelle langue ils vont se parler, parce que Léonard ne parlait pas italien. Je ne sais pas si François Ier parlait pas français, Léonard et François Ier. Je ne suis pas sûr qu'ils parlaient l'italien. En tout cas, ils se comprennent, ils ont l'air de bien s'aimer, et François Ier va faire à Léonard une proposition que jamais l'Italie ne lui fera, que jamais l'Italie ne lui a faite et ne lui fera. C'est presque le plus grand transfert de tous les temps, pardon mesdames, mais je vais parler un petit peu de sport, mais c'est un transfert improbable d'ailleurs. C'est comme si le petit club de Trifouilly-les-Oies demandait à Zinedine Zidane de venir jouer dans son équipe, dans leur équipe. C'est improbable, et pourtant Léonard va dire oui. Improbable pourquoi ? Parce que les Français, à cette époque-là, sont des barbares, sont perçus comme des barbares. Nous ne connaissons pas la fourchette encore à l'époque, nous vivons toujours dans des châteaux froids et humides, nous sommes loin de des magnifiques demeures de ces châteaux de la Loire que nous visitons aujourd'hui. Nous en sommes encore loin et les Italiens, eux, sont déjà dans des palais magnifiques et somptueux. Alors Léonard va dire oui et il va suivre François Ier sur les bords de Loire. Il ne va pas le suivre sans rien, bien sûr. Il va partir avec sous le bras quelques œuvres, notamment le portrait d'une certaine dame florentine, comme il l'écrit lui-même, Mona Lisa. Et nous savons d'ailleurs qu'il a tellement peur, il ne faut quand même pas oublier que ce sont des commandes, tout ça, il a tellement peur que Bartolomeo vienne chercher son œuvre, qu'il la maquille à coups de peinture blanche, et qu'il s'en va donc avec sous le bras la Joconde, la Vierge au Rocher, Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, et Saint-Jean-Baptiste également. Et il arrive sur les bords de Loire, il commence à se faire vieux, il est fatigué, il est très usé. Il faut quand même savoir, il faut quand même imaginer que quand il était à Milan, quand il était chez Ludovic Sforza, tous les jours quasiment, il arrivait avec un nouveau projet sur le bureau du duc. Il lui disait, il a été capable de créer quand même le métier à tisser, bien avant Jacquard, entre autres. Mais ça fait beaucoup. Quand même, imaginez, on a beau être Ludovic Sforza, on a beau être immensément riche, moyennement intelligent, ça fait quand même beaucoup, et peu, voire pas de mécènes, ont suivi Léonard. Léonard a été assez blessé de voir que Saint-Pierre de Rome, ce n'est pas lui, c'est Bramante, que la chapelle Sixtine, on lui a bien proposé vaguement, mais c'est évidemment Michel-Ange, etc., etc. Il n'a jamais rien laissé, en tout cas, de ce type d'œuvre-là. On ne lui a jamais rien demandé, et tout ce qui a pu lui être demandé, comme le cavalier Sforza, a été détruit. Finalement, il ne laisse derrière lui que des ruines ou de petites œuvres. Je ne parle pas uniquement que d'art, bien sûr. Il arrive donc sur les bords de Loire, fatigué, usé. On sait qu'il a eu des rhumatismes, il ne peindra plus. Il a même eu une attaque cardiaque. Il terminera la Joconde, bien sûr, mais il ne peindra plus. Il a quand même encore un rêve, notre Léonard, il veut détourner la Loire. Alors heureusement, nous ne sommes pas comme les Florentins, nous ne l'avons pas laissé finir, même pas commencer. Il avait cependant un rêve pour ce pays, c'était Romorantin, c'était sa ville idéale, et dans cette ville idéale, il avait dessiné un château. Et ce château, nous avons la chance de l'avoir encore, c'est Chambord. Et oui, mesdames, messieurs, Chambord, les premiers dessins de Chambord, le Chambord du centre, pas les tourelles autour, mais le Chambord au centre, outre l'escalier extraordinaire à vis, eh bien, de la main de Léonard de Vinci. Le reste, c'est François Ier, mais là, c'est Léonard. Leonardo mio, perché tanto penare? Mon cher Léonard, pourquoi t'es-tu donné tant de peine? Parce qu'en effet, je disais tout à l'heure, Léonard n'a jamais trouvé de mécène, de génie. Lui, ce génie absolu, n'a jamais trouvé de génie capable de le comprendre. Et je pense souvent à ce poème de Baudelaire, vous savez, l'Albatros. Et dans ce poème, il y a des vers qui sont presque écrits pour Léonard. Exilé sur terre, au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà les propres vers de Baudelaire qui auraient pu être écrits pour Léonard de Vinci. Exilé sur terre, oui, au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Léonard était peut-être trop grand pour nous, peut-être que nous n'avons pas su à l'époque et saurions-nous peut-être encore aujourd'hui le découvrir. Ce n'est pas évident, c'était en tout cas un génie, un homme fantastique, un homme du Moyen-Âge qui a jeté un pont entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, parce que dans sa ville idéale, c'était la ville de Le Corbusier. Cet homme qui a jeté un pont de 5 siècles, qui n'a pas été un homme de la Renaissance, mais un homme du Moyen-Âge exilé dans cette Renaissance, eh bien, va s'éteindre à 67 ans. Donc vous voyez, on est loin de l'autoportrait de 1512, encore une fois, il a 67 ans, nous sommes en 1519, le 5 mai très exactement, et dernière idée reçue, il ne meurt pas dans les bras de François Ier, qui est à Fontainebleau à ce moment-là, mais dans les bras de Melzi, qui est son compagnon, enfin son apprenti, si vous voulez, à ce moment-là, donc dans les bras de Melzi, il a 67 ans.
Et voilà comment disparaît donc un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité. Un homme qui termine dans une sorte de cage dorée, car François Ier n'est pas Ludovic Sforza. Il ne lui donne pas évidemment la liberté d'entreprendre. Voilà comment disparaît celui qui nous a laissé, on grandit quand on apprend, un éternel apprenti, un éternel incompris. Merci à toutes et tous, à très vite.